Bonjour, c'est l'émission Il était une fois, l'émission sur le conte que vous connaissez bien maintenant. Et rappelez-vous, le conte, ça n'est pas que pour les enfants.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of. In a lullaby.
Bonjour, c'est Chloé Gabrielli, la conteuse. Bienvenue dans Il était une fois. Bienvenue sur Fréquence 7. Vous avez pris votre adhésion? Non? Vite, allez sur le site fréquence7.net et allez adhérer si vous voulez que votre radio continue à diffuser. Aujourd'hui, dans Il était une fois, nous allons partir pas très loin d'ici, dans les contes espagnols. J'ai trouvé de très jolis contes dans un livre de chez Grunt qui est maintenant retiré des bibliothèques alors que c'est un livre absolument formidable. Je vous emmène immédiatement dans les contes espagnols. Il était une fois un seigneur qui aimait une jeune fille, belle, mais pauvre. Il l'aimait tant qu'il finit par l'épouser. Mais quelque temps après le mariage, la guerre éclata, et le seigneur fut obligé d'aller se battre pour son roi. Il fit ses adieux à sa jeune épouse avec grand regret, car elle allait justement être mère. Il demanda alors à son intendant de veiller sur elle. Celui-ci le fit avec tant de zèle qu'il lui proposa même un jour de s'enfuir avec lui et d'oublier son mari. La jeune femme en fut très courroucée et déclara qu'elle révélerait tout à son époux dès qu'il rentrerait. L'intendant cacha son dépit, mais décida de se venger de la jeune fille. Quand le temps fut venu, des jumeaux, un garçon et une fille, vinrent au monde. Et comme les deux enfants étaient nés d'un grand amour, leur front était orné d'une étoile. L'intendant jugea que l'heure de la vengeance était venue. Il informa par lettre son seigneur que son épouse fréquentait depuis longtemps déjà un domestique, mort, indigne, et qu'elle avait mis au monde des jumeaux à la peau aussi sombre que celle des morts. Le seigneur lut la lettre et voulut rentrer précipitamment chez lui, mais le roi ne l'y autorisa pas. Il écrivit alors une lettre à son intendant et lui ordonna de jeter son épouse dans la prison la plus sombre et de tuer les deux enfants immédiatement. L'intendant emprisonna la jeune mère, en s'excusant avec des mots perfides, lui assurant qu'il n'agissait pas de sa propre volonté, mais qu'il suivait les ordres de son maître. Puis il voulut tuer les enfants, mais ne trouva cependant pas assez de courage pour accomplir cet acte impie. Il fit alors fabriquer un coffre de verre. Il y plaça les deux petits, et il laissa glisser le coffre au fil de l'eau sur la rivière. Le coffre suivit le courant, jusqu'à ce qu'un vieux pêcheur l'aperçoive enfin. Occupé à pêcher le poisson, il vit un objet brillant descendre la rivière. Il tira le coffre sur la berge à l'aide d'une perche et y découvrit deux beaux enfants. Et sa surprise fut encore plus grande lorsqu'il remarqua l'étoile sur leur front. Il les prit dans ses bras, il les emporta chez lui et les montra à son épouse. Et tous deux décidèrent de les garder et de les élever comme s'il s'agissait de leurs propres enfants. La femme dit « Je crains ce que diront les gens lorsqu'ils verront l'étoile sur le front des petits. Ils risquent d'en parler tant et tant que celui qui les a placés dans ce coffre de verre l'apprendra et il viendra nous les reprendre. » Après maintes réflexions, ils décidèrent d'entourer la tête des enfants d'une écharpe de soie blanche. Quand ils furent un peu plus grands, leur vieux père nourricier leur donna ce conseil. « Si quelqu'un vous demande pourquoi vous portez un voile sur la tête, dites que vous êtes blessé et que vous avez de grandes cicatrices sur le front. » Lorsque les deux vieux époux eurent atteint un âge avancé, et que leurs jours furent comptés, ils appelèrent les deux enfants pour leur raconter toute la vérité. Après quoi, ils les prièrent de n'enlever leur écharpe que lorsqu'ils sauraient qui étaient leurs vrais parents. Enfin, ils leur montrèrent le coffre de verre, ainsi que les deux linges de soie précieux dans lequel ils avaient été enveloppés jadis. Le temps s'écoula. Le Seigneur revint de la guerre. Il ne dit mot à propos de sa femme, mais l'intendant comprit qu'il n'avait jamais cessé de penser à elle. Prenant soudain peur que tôt ou tard sa trahison soit découverte, il partit à la recherche des enfants perdus. Il enquêta dans les maisons qui bordaient la rivière et finit par apprendre que dans un village vivaient deux enfants dont le front était tout au long de l'année ceint d'une écharpe. Il comprit immédiatement qu'il s'agissait des enfants du coffre de verre et devina la façon dont ils étaient arrivés dans le village de pêcheurs. Il se rendit alors chez une sorcière qui vivait au cœur d'une forêt profonde et lui donna 100 pièces d'or en lui demandant de faire disparaître les deux enfants. La vieille femme se rendit dans le village et attendit que la fillette soit seule à la maison. Alors, comme si elle passait par hasard, elle s'arrêta à la porte de la cabane et lui dit « Bonjour, ma jolie. Je ne vois pas ton frère. Où est-il donc ?» La jeune fille répondit « Il n'est pas à la maison. Il est allé au champ et ne rentrera que ce soir. Mais dis-moi, ne veux-tu pas te reposer un instant? Il fait chaud, le soleil brûle depuis ce matin. » La sorcière accepta. « Oui, volontiers. Je viens de faire un long voyage et mes jambes ne me portent plus. » La jeune fille lui apporta une tasse de lait et une tranche de pain. La sorcière s'assit sur le banc devant la porte et regarda autour d'elle. « Voilà une belle cour, et comme elle est propre !» Elle lui fit des compliments. « Mais sais-tu ce qu'il manque ? Un puits avec de l'eau argentée ?»« Un puits avec de l'eau argentée ?» s'étonna la jeune fille. « Un tel puits peut-il exister ?»« Oh, si ton frère l'accepte, dit la sorcière, qu'il se rende dans le bois auprès du chêne géant. Là se trouve la source d'eau de cristal. Il suffit de la puiser dans une cruche, de la verser au milieu de la cour, et tu auras le puits le plus beau de tout le village. » À peine la vieille femme était-elle partie que le frère rentra des champs. Sa sœur lui raconta ce qui s'était passé et elle lui demanda « Fais-moi plaisir, apporte-moi de l'eau argentée. Si tu savais comme j'aimerais avoir dans ma cour un puits qui contienne cette eau. » Mais le garçon dit énergiquement « Avons-nous besoin d'eau argentée? La nôtre est assez belle. Ne m'en veux pas, mais je refuse d'y aller. » La jeune fille se tut, mais des larmes apparurent dans ses yeux. Son frère, qui l'aimait tendrement, ne put supporter ses pleurs. Il poussa un soupir, il l'embrassa en disant « Bien, je t'apporterai de l'eau argentée, mais cesse de pleurer. » Il prit une cruche et s'en alla dans le bois. Sur le versant, il rencontra un vieillard aux cheveux blancs. « Où vas-tu, mon fils ? » lui demanda-t-il. « Qui désire ton malheur pour t'envoyer ici ?»« Personne ne m'envoie ici, » répondit le garçon. « Mais une vieille femme est venue voir ma sœur et lui a dit qu'il existait dans le bois une source d'eau argentée. Si j'en verse au milieu de la cour de notre maison, un puits surgira. Moi, je n'ai guère envie d'avoir un puits dans la cour, mais je veux tellement faire plaisir à ma sœur. » « Ah, je connais cette source, » dit le vieux. « Mais ne t'imagine pas que tout est si facile. Elle est gardée par un grand lion. Cache-toi dans le bois et observe-le. Quand il aura les yeux fermés, tu ne devras pas t'approcher de lui. Mais quand il aura les yeux ouverts, il sera alors en train de dormir. Puise de l'eau et fuis en hâte, car le lion s'éveille au moindre bruit. » Le jeune homme se rendit dans le bois, et près de la source de la clairière, il vit le grand lion. Il avait les yeux fermés, il semblait dormir. Le garçon se cacha dans les fourrés et attendit. Quand le lion ouvrit les yeux, il sortit de sa cachette, puisa de l'eau dans la cruche et s'en revint promptement à la maison. Il versa l'eau de cristal au milieu de la cour et aussitôt un puits d'eau argentée surgit du sol. La jeune fille poussa un cri de joie et embrassa son frère. Le lendemain, la sorcière revint et s'informa. « Ma belle, Que fait donc ton frère ? Il n'est pas ici, répondit la jeune fille, mais viens dans la cour, je vais te montrer quelque chose. La sorcière entra et aperçut le puits d'eau argentée. Elle se mordit les lèvres de colère et s'écria « Ah, quel beau puits ! Je suis contente qu'il te plaise. Mais je vais te dire encore autre chose. Il fait très chaud, et nulle part tu n'as le moindre coin ombragé. Loin dans le bois se dresse un grand chêne, dont tous les glands sont en argent, et il possède une cupule en or. Si ton frère t'en apporte une branche et qu'il la plante dans la cour, le plus beau des chênes s'y dressera aussitôt, dispensant fraîcheur et ombrage. » Dès que le garçon rentra, la jeune fille lui raconta ce qui s'était passé. Le frère fronça les sourcils. « Non, je n'irai pas, car il pourrait m'arriver malheur. » Mais à nouveau, quand il vit les larmes dans les yeux de sa sœur, il l'embrassa et lui dit « Je vais tout de même essayer, mais cesse de pleurer. » Il retourna dans le bois et sur le versant rencontra de nouveau le vieillard. « Où vas-tu, mon garçon ? » lui demanda-t-il. « Qui désire ton malheur pour t'envoyer ici ?» Le jeune homme lui révéla où il allait. Et le bon vieillard lui donna ce conseil-là. « Lorsque tu t'approcheras de ce grand chêne, regarde bien dans l'herbe. Un serpent venimeux le garde. Quand il est enroulé, cela signifie qu'il dort. Coupe rapidement la branche et sauve-toi, afin qu'il ne te morde pas. » Le garçon agit comme le vieil homme le lui avait conseillé. Dès qu'il planta la branche auprès de son puits, un chêne majestueux surgit, dispensant aussitôt une ombre pleine de fraîcheur. La jeune fille embrassa son frère. Sa joie était encore plus grande que la veille. Vous l'avez deviné, le troisième jour, la sorcière revint encore. Elle vit le chêne et trembla de colère. « Cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas, » pensa-t-elle. Puis elle appela la jeune fille. Celle-ci l'emmena dans l'ombre du feuillage majestueux. La vieille femme grimaça un sourire. « Maintenant tu as l'eau argentée, et le chêne qui donne de l'ombre. Il ne te manque plus qu'un perroquet blanc. Si tu le possédais, tu serais riche et heureuse. Demain, prie ton frère d'aller le capturer. » Elle s'attarda encore un instant dans l'ombre du chêne et partit. Dès que le jeune homme rentra, sa sœur lui conta ce qui s'était passé et demanda « Je t'en prie, apporte-moi le perroquet blanc. Imagine-toi que nous n'aurons plus alors aucun souci et que plus rien ne nous manquera. » « Mais rien ne me manque !» s'écria le garçon. « Et si tu n'avais pas tant de souhaits à formuler, je serais l'homme le plus heureux sous le soleil. » Mais quand il vit les larmes dans les yeux de sa sœur, il poussa un gros soupir. « Soit, je vais partir à la recherche du perroquet blanc, mais à la condition que tu me promettes que ce sera là ton dernier souhait. » Sa sœur l'embrassa et lui promit de ne plus rien lui demander désormais. Le garçon partit à la recherche du perroquet blanc. Quand il monta le versant du bois, il rencontra de nouveau le vieil homme aux cheveux de neige. « Où vas-tu cette fois encore ? » demanda-t-il. « Qui veut ton malheur pour t'envoyer ici ?» Le garçon lui raconta tout. Et le bon vieillard lui répondit « Si tu longes toujours le bois, tu arriveras auprès d'un grand jardin. Dans les arbres de ce jardin, tu verras de nombreux oiseaux, et parmi eux, le perroquet blanc. Mais ne l'attrape pas. Assieds-toi et attends. » Bientôt il descendra de l'arbre, se posera sur la pierre ronde non loin de toi et te parlera d'une voix humaine. Il dira « N'y a-t-il donc personne ici qui souhaite m'attraper ? Personne ne désire le perroquet blanc ? Que faire ? Si personne ne me veut, qu'on me laisse ? Qu'on me laisse tranquille ?» Puis il glissera sa tête sous son aile et s'endormira. Ce sera pour toi le moment d'agir. Tu bondiras et tu le saisiras promptement dans ta main. Mais ne le fais surtout pas avant, car il s'envolerait et tu te transformerais en pierre. Regarde toutes les pierres qui se trouvent dans l'herbe, sous les arbres. Il s'agit là de tous les hommes qui, ayant tenté d'attraper le perroquet blanc, se sont trouvés métamorphosés. Le garçon répondit, « Je ne sais pas si je réussirai, mais je vais essayer. » Il remercia le vieil homme et s'engagea sur le sentier qui longeait le bois. Il arriva enfin devant un grand jardin. Celui-ci était plein d'arbres touffus et partout volaient des nuées d'oiseaux magnifiques, des bleus et des jaunes, des violets et des roses, certains parés d'un plumage étincelant comme le diamant. Sous les arbres, l'herbe était parsemée de pierres. Le garçon s'assit sur l'une d'elles et attendit. Au bout d'un court instant, le perroquet blanc apparut parmi les oiseaux. Il était d'un blanc si éclatant que les yeux du garçon en furent éblouis. Il s'approcha et se posa sur une pierre ronde. Avec son bec, il ébouriffait vaniteusement ses plumes blanches, comme s'il avait voulu mettre sa beauté encore plus en valeur. Puis tout se déroula comme l'avait demandé le vieillard. Mais le jeune homme n'attendit pas assez longtemps. Craignant que le perroquet s'envole, il sauta sur lui. L'oiseau n'avait pas encore glissé sa tête sous son aile. À peine l'eut-il effleuré que le garçon se transforma en pierre. La jeune fille l'attendit en vain. Comme le lendemain matin, il n'était pas de retour, elle comprit qu'il lui était arrivé malheur. Elle se le reprocha, mais c'était trop tard. Le lendemain matin, la sorcière lui demanda à nouveau « Où est ton frère ?» Et la jeune fille lui raconta tout. La vieille était heureuse, mais elle dissimulait sa joie. Elle lui dit finalement « Peut-être se plaît-il tellement dans ce beau jardin qu'il ne veut plus revenir ? Tu ferais mieux d'aller le chercher et de le ramener avec le perroquet blanc. » La jeune fille partit immédiatement. Et sur le chemin, elle rencontra le vieil homme aux cheveux blancs. De la même manière, il l'interpella et elle répondit. Le vieil homme lui donna encore ce conseil. « Ton frère a oublié mon conseil, il s'est transformé en pierre, mais ne sois pas désespéré. Si tu fais ce que je te dis, tu peux le sauver. Parle vite, je tenterai tout au monde pour lui venir en aide. » « Bien, » dit le vieillard. Il lui raconta ce qu'il devait faire avec le perroquet. « Mais veille à ne pas le toucher avant qu'il ne soit endormi, hein, ne fais pas comme ton frère. » La jeune fille le remercia, continua son chemin. Elle arriva dans le jardin. Elle vit le perroquet blanc. Il parla à voix humaine. Et puis il se mit à tourner en rond. Enfin, il cacha sa tête sous son aile et ne bougea plus. Alors la jeune fille se leva et le saisit fermement dans sa main. Au même moment, dans l'herbe, toutes les pierres s'animèrent comme si elles prenaient vie et se transformèrent bientôt en créatures vivantes. Elles étaient nombreuses, très nombreuses. Il y avait parmi eux ceux qui jadis possédaient beaucoup et voulaient encore plus, ainsi que ceux qui n'avaient rien et espéraient que le perroquet blanc leur apporterait le bonheur. Il y avait des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des pêcheurs, même des princes, et parmi eux son frère. La jeune fille l'étreignit comme si elle avait peur de le perdre à nouveau. Et toute cette foule la remercia de l'avoir libérée. Afin de fêter l'événement, les deux jeunes gens les invitèrent tous dans leur maison. Ils confièrent également ceux qu'ils rencontrèrent sur leur chemin. Ils préparèrent pour leurs invités des poissons de la rivière, s'installèrent à l'ombre du chêne touffu autour du puits d'eau argentée et ils racontèrent leurs histoires. Ils leur révélèrent aussi qu'ils possédaient toujours chez eux le coffre de verre dans lequel ils avaient autrefois descendu le cours de la rivière, ainsi que les deux écharpes de soie qui les enveloppaient quand le vieux pêcheur les avait recueillis. Parmi les autres se trouvait un homme taciturne et triste. Assis sur la margelle du puits, il écoutait. Quand ils se turent, il se leva et il leur demanda à voir les écharpes. C'était le seigneur du manoir, leur père. Lui aussi s'était jadis transformé en pierre alors qu'il cherchait en vain ses enfants dans la région. Lui aussi avait été libéré de l'enchantement au moment où la jeune fille avait saisi le perroquet blanc dans sa main. Les deux jeunes gens lui apportèrent les écharpes et l'homme reconnut son blason brodé de fils de soie. Il s'attrista davantage, car il ne pouvait comprendre comment ces écharpes étaient arrivées dans le coffre de verre. Assis auprès du puits argenté, il songeait. Et plus il réfléchissait, et moins il comprenait. Soudain, le perroquet blanc quitta l'épaule de la jeune fille où elle était restée perchée. Il s'approcha du chevalier triste et lui dit à voix basse, « Si tu veux connaître la vérité, va voir ta femme. Elle est en prison. Interroge-la. Elle te racontera tout et te dira où il te faut chercher tes enfants. » L'homme n'attendit pas davantage. Il remercia les deux jeunes gens et retourna dans son manoir. Il descendit dans la prison. Il en fit sortir sa femme et la pria de lui dire ce qui s'était réellement passé. Elle lui raconta toute l'histoire, mais elle ne savait rien au sujet de ses enfants. Elle ne se rappelait qu'une seule chose. Leur front était orné d'une étoile, signe du grand amour dont ils étaient nés. L'homme se souvint alors que la jeune fille qu'il avait délivrée du jardin enchanté avait le front caché par une écharpe blanche. Il appela ses serviteurs et il leur ordonna de se rendre immédiatement dans le village des pêcheurs et de ramener les deux jeunes gens. Quand le frère et la sœur se présentèrent à la porte du manoir, leur mère se précipita vers eux et les reconnut aussitôt. Elle les conduisit auprès de son mari et ôta leur écharpe blanche. Le Seigneur distingua l'étoile sur leur front et comprit qu'il s'agissait de ses enfants. Dès lors, ils vécurent ensemble de longues années sans plus jamais se séparer. Et quand le jeune homme et sa sœur eurent fondé une famille, leurs enfants aimèrent par-dessus tout jouer avec le perroquet blanc. Il est déjà l'heure de se quitter. Cette histoire de perroquet blanc nous a bien occupé 20 minutes. Vous n'avez pas eu le temps d'écouter toute l'histoire, c'est pas grave, on se retrouve le mercredi et le samedi à 16h. Merci Sylvain pour la technique. Et d'ici nos retrouvailles, racontez-vous des histoires.